Bonjour et bienvenue au Bulletin Azur, épisode 10. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2012, jour de l'enregistrement. Donc le Bulletin Azur, c'est AKMS slash le Bulletin Azur comme URL de référence. Les annonces sont faites également sur at Windows Azure FR. Et puis également les comptes Twitter. Donc on mettra à jour les comptes Twitter avec entre autres Benjamin. Donc, je suis Benjamin Guinevertière et toi, Benjamin, comment t'appelles-tu?
Donc Benjamin Moulès, je viens
Oui.
de rejoindre l'équipe.
Bienvenue.
Merci.
Et toi, donc, comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Blaise Vignon, je travaille chez Microsoft depuis un moment, déjà plus récemment sur la startup. Je travaille assez fortement sur Azure à partir d'aujourd'hui, plutôt dans un axe business développement. Bonjour Benjamin.
Très bien, t'as vu que pour toi je t'ai pas aidé, hein. Je t'ai pas donné ton
Blaise,
prénom.
moi. Blaise, c'est bien le prénom. On le demande souvent.
Ok, très bien. Donc cet épisode s'appuie entre autres sur les épisodes cloud de Cover Show de nos cousins américains qui font ça à une fréquence bien plus élevée que la nôtre.
Ils sont forts, ces Américains.
Et donc depuis le 10 juillet, date du dernier enregistrement du dernier bulletin Azure, il y a eu tous ces épisodes. Donc, premier épisode de 84 sur Windows Azure Storage Update. Donc là, il y a pas mal d'informations sur le détail de ce qui allait arriver sur la partie Client Storage. Windows Azure et Windows 8, puisque Windows 8 est sorti, et donc il y a pas mal de nouveautés là-dessus. Ensuite, on a tout un épisode sur Windows Azure Active Directory avec Vittorio Bertocci.
Tu peux le redire, j'aime bien ça.
avec Vittorio Bertocci, donc... Effectivement, qui donne toute une démo, qui explique à quoi ça sert, etc., ce que ça fait dans le détail. On aura ensuite l'épisode de 87, donc là avec tout un ensemble de nouveautés sur, en particulier Visual Studio 2012 et ASP.NET. Sur Virtual Machine et Virtual Networks, on a l'épisode 88. Et enfin, épisode 89 avec Windows Azure Mobile Services. Je dirais que de tout cela, c'est peut-être celui qui est le plus... Enfin, les deux que j'ai préférés, moi, c'était le 86 et 89, c'est-à-dire sur Active Directory et sur Mobile Services, puisqu'on a des démos dans le détail, etc. Ça explique vraiment toute la techno. Voilà. Donc voilà pour le Cloud Cover Show. Nous passons aux nouvelles locales. Donc le blog Windows Azure France, où vous trouverez toujours tout un tas d'informations. Je ne sais pas si Blaise a trouvé quelques informations intéressantes dans cette partie-là, dans le blog. Sinon, on a relevé entre autres qu'il y avait un hub sur les événements développeurs MSDN France.
Alors on avait dit qu'on traduisait hub en système point à point de transfert d'informations.
C'est ça. Et donc,
Hein.
et finalement, on ne l'a pas fait.
Finalement, on l'a pas fait, d'accord.
Finalement, on a gardé ça. Donc là, c'est un site en fait où on va avoir tous les prochains événements développeurs. Alors, ce n'est pas que Windows Azure, hein. Mais donc là, par exemple, en ce moment, ça tourne pas mal autour de Windows 8. Mais par exemple, on a le Hadoop User Group aussi qu'on va héberger dans nos locaux prochainement. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce hub nouveau. Également Windows Azure Media Service Summit. De quoi s'agit-il?
Donc,
Parce que c'est une nouvelle vraiment locale.
Alors, il y a un débat parce que c'est européen.
Ah.
Alors, ça dépend comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus français, européen? Est-ce que tu es européen d'abord?
Hollandais aussi.
Ouais. Donc, c'était hier, avant-hier d'ailleurs, en préambule à l'IBC, qui est le gros événement technique autour du média. En préambule à l'IBC, on avait rassemblé un certain nombre de clients européen,
Ouais.
donc ce n'est pas purement local,
D'accord.
mais c'est purement européen, autour de nos équipes techniques Media Services pour présenter le produit et puis commencer à faire bouger les premiers projets ou même les projets déjà pilotes.
Ouais.
Et donc c'est un beau succès, je devais y être et j'ai eu une urgence, j'ai pas pu y aller.
D'accord.
Mais je comprends qu'il y avait beaucoup de monde, que les présentations étaient de qualité. Et si vous y étiez, je pense que vous avez le même feeling. Et puis sinon, on peut parler de toute façon de Media Services si le média est dans votre roadmap, c'est quelque chose qui vous
Exactement.
intéresse.
Thomas Comté, donc notre collègue qui est régulièrement dans ce bulletin et qu'on nous retrouverons bientôt, était à ce summit.
Voilà, tout à fait. Thomas y était. Il a eu toutes les infos, les contacts, tout.
Donc c'est sur lui qu'il faut tomber si.
On se parle. Hein. Et en plus, Thomas, il s'appelle pas Benjamin, j'ai remarqué.
Oui, c'est un des rares Benjamin de l'équipe qui s'appelle autrement.
ça, c'est quand même un problème, quoi.
Très bien. Ensuite, nous avons les nouvelles globales. Donc, une des nouvelles, c'est que Media Services est apparu dans le portail, mais dans le portail de gestion. Mais globalement, on a quand même pas mal de nouveaux. Qu'est-ce que je voulais montrer, zut, pardon. C'est ça, ce que je voulais faire. On a pas mal de nouveaux services qui apparaissent dans le portail. Donc, si je l'ouvre. Donc, il faut que je me connecte aussi. Hein. Est-ce que j'ai tapé le bon mot de passe? Oui, a priori. Évidemment, dans ce nouveau portail, on a tout ce qui est virtual machine, etc. On en a parlé, mais on a quelques nouveaux éléments qui sont apparus, comme settings, par exemple, qui permettent de gérer maintenant les certificats de gestion qu'on avait avant uniquement dans l'ancien portail, qui reste disponible et qui a windows.azure.com. Et on a Media Services, donc, qui est maintenant disponible via cette partie-là, ce qui permet de créer un compte plus facilement. Entre autres, hein, c'est ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh bien, il y a la partie mobile services sur laquelle on reviendra.
Alors là, on a un problème quand même parce que Media Services, on a pris l'habitude de l'appeler WAMS.
Oui.
Et maintenant, on a Mobile Services dont l'acronyme fait aussi WAMS.
Oui. Et donc du coup, les deux, on les appelle WAMS.
Mais moi, du coup, Mobile Services, comme il y a un O, je propose qu'on fasse WAMOS et du coup, ça fait VAMOS.
Ah oui, c'est pas mal.
J'aime bien VAMOS.
On le proposera à nos collègues espagnols.
Voilà.
Pour voir ce qu'ils en pensent. Alors, très bien. Donc,
on en parlera plus tout à l'heure, de toute façon, Mobile Services.
Mobile Services, oui, on va en parler tout à l'heure, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, ben, justement, Windows. Il y a dans les actualités globales, pardon, il y a tout un tas d'actualités que nous allons passer en revue. À commencer par Python. Quel est ce serpent?
C'est pas une question sérieuse que tu me poses. Tout le monde connaît Python. Hein.
Exactement.
C'est le langage qui. Si je dis que c'est le langage qui explose, les gens qui sont fans de Rave vont m'écrire. c'est un langage qui est en forte croissance. Ça ressemble à un canard, ça fait le bruit d'un canard, et donc c'est probablement un canard. Et donc c'est un langage qui est en forte croissance, et c'est le dernier arrivé dans les langages non Microsoft, puisqu'on n'a pas encore trouvé le meilleur terme pour les décrire, donc les langages non .NET. Qui sont supportés officiellement sur Azure. Donc il rejoint Java, il rejoint Node.js, il rejoint PHP. Et donc là, on fournit le SDK. Vous voyez, je crois que c'est écrit en petit, mais on fournit le SDK aussi pour Linux et Mac.
Ouais.
Donc on est vraiment dans l'interopérabilité. Et c'est pas seulement le IPython ou le Python que nous on écrivait sur .NET, mais c'est aussi Django, le framework web qui est assez largement utilisé, en particulier par une communauté que je connais bien, qui est la communauté des startups. Donc ça, c'est dispo dès aujourd'hui sur le portail.
Avec un exemple, Hello World, par exemple.
Voilà. Et si vous faites autre chose que Hello World et que ça se passe moins bien que vous vouliez, ou même si vous voulez être rassuré, nous, ça nous intéresse de faire les premiers projets Python. Donc, pareil, vous savez où nous trouver.
Également, nous avons des nouvelles ressources au niveau Java. Donc,
Donc Java, ça fait longtemps qu'on le supporte. Hein.
Oui, ouais. Exactement. Donc il y a quelques nouveautés, entre autres, c'est des nouveautés en termes de documentation en particulier sur la partie Virtual Machines, et puis également sur la partie Access Control avec des outils dans Eclipse, puisqu'il y a quand même quelques développeurs Java qui utilisent Eclipse.
Mais ça, je comprends pas. Moi, j'ai vendu du Visual Studio pendant 3 ans. Je comprends pas quoi.
Bref. Donc. Ensuite,
puisque Java nous emmène vers l'entreprise, tu veux peut-être nous parler d'entreprise.
Exactement. Donc, on a la Developer Preview de Windows Azure Active Directory, donc qui est disponible depuis le 12 juillet. Donc, qu'est-ce que c'est que Windows Azure Active Directory?
Qu'est-ce que c'est Windows Azure Active Directory?
C'est quoi donc?
Est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer mon Exchange, par exemple, Benjamin?
Pas du tout.
Écoute, je suis content que tu le clarifies.
Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est effectivement de gérer l'identité également dans le cloud, de façon à ce que ce soit, de façon à ce qu'on puisse s'authentifier auprès de cet annuaire dans des applications hébergées dans Azure en particulier. Et donc, pour l'instant, la partie Windows Azure Active Directory, c'est globalement l'annuaire tel qu'il est répliqué depuis un Windows Azure, depuis un Active Directory local vers Office 365, qui a été repris dans Windows Azure. Et à terme, il y aura une fusion aussi avec ACS, Access Control Services, qui permet aussi de faire de la fédération d'identité avec d'autres fournisseurs d'identité. Donc ça, il y a plusieurs moyens de l'aborder. Le premier, c'est d'aller jouer avec le Graph Explorer, par exemple, puisque ça, c'est une grosse différence qu'on a par rapport à un Active Directory à demeure. Hein. C'est le fait qu'effectivement, on puisse aller regarder, par exemple, les users. Donc il y a un tenant exemple qui permet d'aller se balader dedans. Et puis là, il y a aussi un client REST qui permet d'aller faire des recherches dans l'Active Directory et puis aller regarder comment les choses se présentent et comment est-ce que... Donc là, on peut aller naviguer d'un objet à un autre, etc. Donc ça, c'est pour le découvrir de façon un peu interactive. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a joué un tout petit peu avec, on peut aller regarder de quoi il s'agit plus dans le détail. Donc là, il y a un blog post de Vittorio Bertocci, toujours, qui en a écrit pas mal sur le sujet de l'identité, et donc qui explique comment est-ce que on peut s'authentifier auprès d'un Active Directory. Donc il prend le cas où on a le Manage and Mesh, donc entre autres, soit les comptes existent que dans Windows Azure Active Directory, soit ils existent dans un Active Directory à demeure avec une réplication des comptes, alors pas des mots de passe, hein, mais en tout cas des comptes dans les nuages, et puis comment est-ce que se passe l'authentification d'une application, effectivement. Voilà. Et puis également, comment est-ce qu'on peut interroger l'API Graph. Donc voilà, ça montre un peu aussi quelles sont quelques différences avec ACS, qu'est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre, etc. Ou comment est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps. C'est assez complémentaire du Cloud Cover Show par ce même Vittorio Bertocci sur le même sujet. On a également un blog post de Aishi sur le sujet, donc qui prend un petit exemple et qui montre comment est-ce que on peut faire les choses avec, entre autres, l'utilisation de PowerShell pour configurer les comptes. Toujours dans le domaine de l'authentification, ce Windows Azure Authentication Library, donc un blog post du 1er août, la seule chose qui m'a semblé, enfin c'est pas la seule chose, mais la chose principale qui m'a semblé intéressante dans ce blog post, c'est le fait que pour la première fois, en fait, on voit très clairement un scénario qui est devenu simple, alors qu'il est à la base compliqué, qui est le fait de passer d'une authentification passive vers une authentification active, alors que c'est un cas souvent utile, c'est-à-dire je m'authentifie avec des redirections web, etc. Donc ça, c'est de l'authentification passive. Mais après, cette application qui a reçu ses claims veut pouvoir faire appel de façon active à un web service. Et donc cette transition est devenue facile avec cette librairie.
Et on ne parle pas de l'adresse du blog post de Vittorio Bertocci, on ne rigole pas là.
Alors non, parce que c'est V. Bertocci, son adresse. C'est le titre qui te fait rire.
C'est le titre, oui. Ça, je ne sais pas si ça doit me faire rire, je ne comprends pas bien.
Oui, enfin je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois que je le cherche dans un moteur de recherche, je tombe toujours sur autre chose. Alors. un blog post sur Windows Azure et Office 365.
Oui, tout à fait. C'est la collusion des clouds, Office 365, donc c'est notre offre Office en cloud. Mmh. Et Azure, on va supposer que vous savez ce que c'est. avec la sortie de la nouvelle version d'Office 365, et puis très prochainement d'ailleurs des prochaines versions d'Office client lourd, Office 15, Office 2013. Restons sur Office 365, on apporte des nouveaux modes de développement applicatif. Ceux qui sont les plus intéressants probablement sont autour de SharePoint. SharePoint, en particulier SharePoint 365, c'est un produit qui est on fire, qui marche vraiment pas mal et qu'on trouve de plus en plus. Et on a apporté deux modes de développement applicatif, un qui est relativement classique, de développement de web parts qui vont être hostés dans Azure. Donc Azure va fournir l'infrastructure de hosting pour du web parts. Donc ça va être assez sympa parce que sinon ça va être quoi ? Ça va être, vous pouvez aller, Développer une web part, la lister sur une marketplace qui est autour d'Office, et elle va se, quand un client va l'acheter ou décider de l'utiliser, elle va être automatiquement déployée sur du Azure Website. Donc c'est un scénario qui est quand même assez cool, qui permet de toucher l'ensemble de la base installée des SharePoint 365 à moindre coût et à moindre coût de développement et de hosting. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre point qui est vraiment marrant, c'est l'arrivée des workflows, en partie des workflows de .NET 4.5, les new and improved, dans SharePoint 365 avec des outils de développement que vous connaissez, que vous aimez, qui est aussi quelque chose de pas mal du tout. C'est un petit peu moins immédiatement compréhensible, mais en revanche, ça répond à quelque chose qui est très très pointu comme besoin, et je pense que ça y répond très bien.
Et on arrive à des scénarios d'intégration entre Azure et Office 365, où on n'est plus obligé de passer par le client, où effectivement il y a une intégration côté cloud, quoi.
Ben, ça marche de mieux en mieux. Ouais. Je ne voudrais pas dire que ça marche mal, mais ça marche de mieux en mieux.
Voilà, exactement.
Et puis, ça c'était la version que moi je peux comprendre. Pour les gens qui
ont... Parle-nous de la version que tu comprends pas.
Jay Schmelzer, c'est moins drôle à prononcer que Vittorio.
Ouais.
Jay Schmelzer a écrit un walkthrough qui est assez exhaustif sur comment ce qu'on fait, en particulier pour la partie web apps dont j'ai parlé au tout début. Le walkthrough est assez exclusif, je vous laisserai le découvrir. Exclusif non, mais exhaustif en tout cas. Et je vous laisserai le découvrir.
Et entre autres, avec ces modes d'hébergement auto-hosted, provider hosted ou SharePoint hosted, où effectivement le auto-hosted va correspondre à ce que tu disais sur Azure et Websites.
Ouais.
Effectivement. Très bien. Ensuite, Enterprise Integration Pattern avec Windows Azure Service Bus.
Service Bus.
Le service bus, donc, effectivement, qui permet de faire circuler les messages
entre
via
les services.
Cloud, entre services et via le cloud.
C'est donc compliqué comme ça, mais c'est simple, en fait.
Voilà. Et donc,
entre pas le service bus, c'est le bus qui permet de faire gérer les services de l'entreprise.
C'est voilà. Ça, exactement.
D'accord.
Et donc Aichi, toujours le même Aichi, en fait, a implémenté des patterns de type Enterprise Integration sur le service bus, et donc il a mis ça sur GitHub. Donc si on suit ce lien là on tombe sur un espace GitHub dans lequel il a mis ces patterns là donc pour l'instant il a commencé par deux patterns qui sont liés au routage. C'est le Dynamic Router et le Content Based Router, à savoir, par exemple, on a un message et en fonction de ce que contient le message, on va l'envoyer à droite ou à gauche.
Ça permet d'ailleurs, comme une incise à ce que tu viens de dire, de rappeler l'intégration de GitHub et d'Azure dont vous avez déjà dû parler, qui est quelque chose d'assez magique.
Windows Azure Cost Assessment. Je fais quelque chose, je voudrais savoir combien ça va me coûter.
D'abord, je trouve ça vachement ambitieux de ta part.
Oui.
la question revient souvent, figurez-vous. Et donc la réponse standard, c'est nous avons une calculatrice en ligne qui permet, connaissant un projet, de savoir combien il va coûter à peu près au centime près. La calculatrice est très très efficace. La calculatrice fonctionne un petit peu en garbage in, garbage out en revanche. C'est-à-dire que si vous ne savez pas du tout ce que vous allez construire, vous aurez du mal à savoir combien ça va vous compter. Donc on a écrit ce white paper, Windows Azure Cost Assessment, que vous retrouverez sur MSDN.
Elle est là, la calculatrice.
Voilà, elle est là, la calculatrice, qui vous explique un petit peu les points d'attention à faire quand on coste une application Azure. Quels sont les vrais drivers de coûts ? Voilà, tout de suite, hein, pour pas qu'il y ait de suspense, je vous le dis, généralement, c'est compute et stockage SQL, sauf les grosses applications médias, mais généralement, c'est compute et stockage SQL. Donc ça, c'est le premier paragraphe dans le white paper. Et ensuite, il y a quelques stratégies qui sont décrites dans le white paper sur la mitigation des coûts, en particulier de stockage SQL. Savoir que le coût de stockage SQL n'est pas complètement linéaire, donc on a éventuellement intérêt à faire une grosse base plutôt que plusieurs petites, et comment ça se passe quand on veut sharder, comment est-ce qu'on architecture sa solution en ayant à la fois la performance, la redondance, la scalabilité et le coût en tête. Donc tout ça est exposé dans le white paper.
Très bien. quelques services rapidement qui arrivent maintenant également à demeure. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue réversibilité, c'est-à-dire qu'on va développer des choses pour le cloud et puis éventuellement, on veut pouvoir les ramener soit chez un hoster, soit dans son propre data center. Et donc, entre autres, le service bus devient disponible à demeure. Donc ça, il y a un article de InfoQ qui évoque ça.
Qu'on soit bien clair, ça veut dire que tu peux installer le service bus d'Azure dans un data center qui n'est pas à nous.
Exactement, qui est à toi.
Non, encore une fois, le truc est un petit peu énorme, donc disons les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Et dans le même principe, pour les hosters, là, cette fois-ci, il y a le fait de pouvoir héberger des services comme websites, virtual machines ou évidemment le portail aussi.
D'accord.
Donc, qui sont des choses assez intéressantes, effectivement. Donc là encore, ça participe à la réversibilité. Et donc, il y a un blog post qu'a fait Martin Balliot là-dessus où il a essayé. Donc il a dit, bon, bah, très bien, je prends ce kit-là, je m'installe des machines à équipe Hervé, etc., et je me fais mon propre... Donc là, par exemple, il a son SQL Server, et donc ça lui fait des bases de données, etc., etc. Il y a quelques copies d'écran, ça permet de se rendre compte relativement rapidement de ce à quoi ça peut ressembler.
Je note qu'on a les noms de moins en moins drôles, là, quand même. On a commencé par Vittorio, et là, on est avec Martine.
Martin Balliot. Voilà.
On avait Vittorio et Aichi, et maintenant, on a Martine.
Juste rapidement là pour dire qu'on peut maintenant configurer le firewall non seulement au niveau de la du serveur SQL Database de Windows Azure, mais également au niveau de la base de données. Là, ça ne va pas être via le portail, c'est avec des commandes transact SQL, mais effectivement, on peut le faire au niveau de la base.
Le serveur 2012 donc, vient de sortir.
Oui.
C'est forcément...
On l'a appelé avant en bêta, on l'appelait Windows 8 Server. Parce
Windows 8 Server, oui. Il y a pas mal de nouveautés. Je ne vais pas forcément aller vers toutes les nouveautés de Windows Server.
2012.
Parce que ce n'est pas le sujet du webcast. En revanche, comme Windows Server 2008 R2, il sera présent dans la Virtual Machine Gallery.
Oui.
Ça, c'est si votre métier, c'est l'infra, ou si vous venez de l'infra, ou si vous savez que vous êtes con. Fronté à des grosses problématiques d'infra, watch this space, comme on dit, parce que Windows Server 2012, c'est l'OS qui est décrit, le slogan marketing, c'est build from the cloud up, donc on construit, on part du nuage et on remonte, et là, il va y avoir, sur l'intégration cloud public, cloud privé, Windows Server 2012, SSM, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est dispo dans la Virtual Machine Gallery, ça va devenir vraiment magique.
Exactement. Windows Azure Media Services pour les London Olympics. Benjamin.
Alors là-dessus, on a un autre blog aussi de Scott Guthrie, voilà celui-là, qui montre un peu plus de manière technique un peu comment ça s'est passé.
Attention, avant d'entrer dans la technique, moi je l'apprends là.
Alors oui, concrètement, en fait, les Windows Azure Media Services sont quand même tout nouveaux, il faut le dire. Et là, en fait, ils ont fait fort, ils ont fait les JO avec ça. Concrètement. Donc, ils ont fait tout le workflow depuis l'acquisition du signal au niveau des JO, le push au niveau d'Azure, l'encodage avec un partenaire et une partie chez nous, du transmuxing pour avoir du multiformat vers aussi bien la concurrence que sur des Windows Phone, que sur ce que tu voudras, et après du delivery avec du CDN.
Donc, attends, parce qu'avant, moi, j'avais une perceuse déjà qui était du clair.
Voilà.
Et maintenant, j'ai une télé qui est dans le nuage.
Exactement.
Je suis vachement honnête.
T'es équipé, je vois.
Donc, je vous invite vraiment à regarder ce billet qui détaille vraiment toute l'architecture qui a été utilisée, tous les avantages, les bénéfices, le trafic qui a été poussé. On a tout un tas d'informations qui sont vraiment très intéressantes. Donc, par exemple, il parle comment les scripts qui ont été utilisés ont permis vraiment d'allouer beaucoup de flexibilité aux partenaires pour déployer manuellement très rapidement leurs services. Donc, jetez-y un coup d'œil et puis contactez-nous pour d'autres projets Media Services, c'est vraiment génial.
Cool. Directions on Microsoft.
Directions on Microsoft, donc c'est le...
Azure veut dire pour les ISV.
Directions on Microsoft, c'est un groupe de personnes dont le métier... Et d'écrire sur Microsoft, c'est un métier, ils sont sur notre campus et ils regardent Microsoft et ils écrivent ce qu'il faut comprendre de ce que nous on raconte. Donc,
ils sont pas inutiles.
Le fait qu'ils existent, c'est à la fois très rassurant en se disant il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on raconte, et puis d'un autre côté, on se dit comment ça se fait qu'il y ait besoin de déconneurs, mais ils font plutôt un bon boulot. Donc là, ils ont écrit un petit papier qui doit faire 6-7 pages sur pourquoi est-ce que Windows Azure c'est intéressant pour les ISV. Alors, c'est pas complètement stratosphérique sur le cloud va tout révolutionner, c'est assez les pieds sur terre. Il y a différents chapitres, je vous laisse découvrir, mais sur les éventuels risques qu'il y a, il va y avoir une stratégie PaaS, SaaS, pardon, les différents chemins de migration, que ce soit par le PaaS, par le IaaS, par la virtualisation. Et puis les impacts sur les business models, la proximité au client, la facilité à réagir au feedback, l'agilité business. Il y a un petit chapitre sur les coûts aussi. Globalement, il est court, mais on y retrouve l'essentiel. Puis après, il y a les ressources pour creuser.
Donc, éditeur de logiciels, si vous vous intéressez à Windows Azure ou si vous vous posez la question, regardez ce rapport de cette société qui travaille que à propos de Microsoft, mais qui est indépendante de Microsoft.
Voilà, exactement. Ils travaillent à notre sujet, mais indépendamment de nous. Le rapport est très bien fait. Et puis, contactez-nous.
Formidable. Blobshare.
Alors. Rappelez-vous, puisque tu me l'as rappelé. Blobshare, c'est un sample qui permet de faire du partage de fichiers avec de l'authentification qu'on avait créé pour montrer la capacité, comment est-ce qu'on faisait tout ça un petit peu en démo sur du WebRoll Azure. Et la news là, c'est que maintenant on le fait tourner sur du website Azure Website. Donc avec des capacités un petit peu différentes, des structures de coûts très différentes, des structures de déploiement très différentes, et la même fonctionnalité relativement complexe en fait de partager un fichier avec authentification.
Voilà, et avant elle était, ça faisait quelques SDK qu'elle n'avait pas été mise à jour, et là du coup elle est remise au goût du jour et même au goût de la plateforme. Le Windows Azure Training Kit August 2012, refresh.
Alors, pour le dire. On l'a donné à Benjamin parce que Benjamin vient d'arriver.
Voilà, exactement. Donc, alors, Benjamin.
Bah, c'est un bon exemple pour ceux qui viennent d'arriver parce qu'en fait, ça contient vraiment une mine d'or en termes d'informations. Il y a plein de présentations sur tous les sujets, que ce soit l'overview sur la plateforme ou des sujets plus spécifiques comme ce sur quoi je vais me consacrer un petit peu, genre les Media Services. Et il y a les hands-on, il y a plein de choses. Donc évidemment, je n'ai pas encore fait le tour, mais je vais m'y consacrer. J'ai commencé à faire deux, trois choses et c'est vraiment, vraiment très riche. Très bien. À ce propos, dans l'édition d'août, ils ont sorti quelque chose sur les mobile services. Ouais. Et je pense que tu vas nous faire une démo
exactement.
À ce sujet.
Inspiré de ce training kit.
Voilà.
Effectivement, donc que sont les mobile services?
Les VAMOS.
Les VAMOS. le principe, en fait, c'est d'être simple dans un cas simple.
On veut faire. Et pas compliqué dans un cas compliqué. Voilà, le cas compliqué n'est pas couvert.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
Donc, en fait, on veut faire une application Windows 8. Comme la plupart des applications Windows 8, on a besoin d'un back-end. De préférence dans le cloud.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, il paraît que Windows 8, c'est le meilleur moyen d'accéder à Azure.
C'est ça, exactement. Ah. C'est à ça que ça sert, en fait.
C'est à ça que ça sert.
En tout cas, de notre point de vue. Donc en fait, on veut faire un back-end. Et en gros, ce back-end, qu'est-ce qu'il a ? Bah, une base de données dans laquelle on va avoir quelques éléments. On veut pouvoir vérifier que l'utilisateur qui fait telle ou telle insertion dans la base a le droit de le faire. On veut vérifier que... et puis, quand il fait son insertion, par exemple, on veut pousser des notifications, enfin, tous ces mécanismes-là. Et donc, pour ces fonctionnalités relativement classiques, eh bien, on va avoir un moyen relativement simple de les mettre en œuvre. Et c'est Windows Azure Mobile Services. Je vais vous montrer comment est-ce que ça peut se faire. Donc, ça, c'était...
Donc, ça c'est en production, mais c'est la version 0. On s'attend à des updates là-dessus.
C'est ça. Alors, c'est pas en production, c'est une preview pour l'instant.
Ah, d'accord. Je crois
mais qui est que sur Windows... Et cette preview est que sur Windows 8. Mais on s'attend à ce qu'elle puisse fonctionner également pour Windows Phone, pour iOS et pour Android.
D'accord.
Cela dit...
Quand on dit on s'attend, nous on a vu des slides où ça...
Oui, non, mais c'est dans la roadmap, clairement. Non,
c'est dans la roadmap, ouais.
C'est clairement dans la roadmap. Cela dit, Chris Reisner s'est amusé
tu vois,
à dire...
À la fin, on termine par Chris, comme quoi les prénoms, c'est plus ce que c'était. Hein.
Donc, s'est amusé à dire, bah, très bien, a priori, derrière, ça doit être juste des web services, donc on doit pouvoir en faire quelque chose. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, bon, bah, très bien, je prends Mobile Services, et puis je vais construire, mais là, je vais construire carrément pour iOS. Donc ils montrent comment dès aujourd'hui, en fait, avec la preview qu'il y a, même si le scénario n'est pas aussi simple qu'on peut l'avoir pour Windows 8 ou aussi guidé, mais ce n'est pas très compliqué, en fait. Il a fait.
Voilà, donc rien n'empêche de se lancer sur iOS tout de suite. Voilà, rien n'empêche de se lancer sur Vamos avec iOS dès aujourd'hui. Voilà. Puis le jour sera mis à jour de simplifier.
Exactement. Et il a fait la même chose pour Android parce que une fois lancé, pourquoi s'arrêter?
Il y a des gens comme ça.
Voilà. Et donc ces deux blog posts sont assez intéressants de ce point de vue-là. En plus, ça permet de voir les API REST, etc. Là, je pense qu'on a fait le tour puisqu'on a on arrive à Python. Donc on va passer.
Python, ouais, c'est, bah, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Exactement.
C'est assez bon, ça.
On va la garder. Donc Windows Azure Mobile Services, une petite démo pour terminer. Je m'inspire de ce qu'il y a sur le site Windows Azure. Donc je vais vous montrer, on va dans Develop puis dans Mobile, mais également dans le Windows Azure Training Kit. Donc quand on va dans, quand on a le Windows Azure Training Kit, par exemple ici. Donc Benjamin, tu dois reconnaître le Training Kit.
Effectivement.
Dedans, il y a Labs. Et dans Labs, on peut aller dans Windows 8, on Mobile Services. Et là, on tombe sur le lab qui montre comment faire les choses dans le détail. Une autre façon d'accéder à peu près le même contenu, c'est d'aller donc sur windowsazure.com.
C'est le premier truc qui sort quand tu tapes Windows.
Oui. Hein. Donc ensuite, Develop. Et dans Develop, on va dans Mobile. Et donc dans Mobile, on a Start Tutorial. Et ici, on a Get Started with Mobile Services, où on va pouvoir effectivement dire bah, voilà ce qu'on veut faire. Donc, et qui montre comment pas à pas faire cela. Donc, comment est-ce que ça se présente? En gros, on va. Bon, alors ça, c'est le même principe un peu partout dans le portail. Si par exemple, pour créer une machine virtuelle, si on reprend la news que tu avais tout à l'heure dans le fait qu'il y ait Windows Server 2012, par exemple, sur Virtual Machine, on le retrouve ici. Donc pour un mobile services, c'est la même chose, on dit je crée un nouveau mobile services. Là, je vais lui donner un nom, donc par exemple le bulletin Azure 010. Je peux soit utiliser une base de données SQL qui existe déjà, soit en créer une nouvelle. Donc je peux créer un nouveau serveur ou créer une nouvelle base. Là, j'ai déjà une base de données qui existe à ce niveau-là. Quand on a plusieurs applications sur la même base, en fait, ils préfixent les éléments avec le nom de l'application. Donc là, LBA 010, donc j'ai une base qui s'appelle ZoomODB. Je donne les credentials.
ZoomODB, c'est toi qui as choisi ce nom, hein?
Oui,
ouais, c'est moi qui ai choisi. Je vérifie.
Ouais, en fait, c'est parce que Zoomo, c'était le nom de code de. D'accord. C'est Azure Mobile.
Ah.
C'était le nom de code de ça. Et donc, est-ce que j'arrive à taper mon mot de passe en m'arrêtant en plein milieu? On va voir. Et donc, voilà. Donc là, je crée un Mobile Services donc, qui est ici. Et donc, ça prend quelques secondes.
Tu veux qu'on meuble peut-être?
Vas-y, ouais. Raconte.
tu prends pas du tout au dépourvu.
Non, c'est bon.
Je t'ai raconté, mais maintenant, c'est bon, c'est bon. Okay, ouais. Je te remercie parce que.
Ouais, je sentais que vous n'aimez pas qu'elle raconte ça. Donc là, on arrive dans notre mobile service. Donc là, on a notre back-end qui a été créé. Et ce qu'on peut faire, c'est soit créer une application Windows 8 qui va être en frontal de ce backend, soit se connecter à une application Windows 8 déjà existante. Donc on installe le SDK Windows Azure Mobile Services et puis on va pouvoir recopier la clé d'application, on va pouvoir commencer à créer une table, etc. etc. Le cas encore plus simple, enfin en tout cas pour montrer Windows Azure Mobile Services, c'est de dire bah, je vais créer une application Windows 8. Donc là, bah, j'installe le Mobile Services SDK, donc ça je l'ai déjà fait. J'ai aussi un Visual Studio 2012 sur ma machine qui est déjà installé. Ensuite, je peux créer une table, donc dans l'exemple qui est donné ici. Alors cet exemple est intéressant à faire juste pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Je crée une table To-Do Item. Donc ça me crée une table dans ma base, dans la base que j'ai donnée, ma ZoomODB, et pour mon application LBA 010. Et puis ensuite, je peux télécharger une application correspondant à cette base et à cette instance de Mobile Services. Donc là, je peux faire une application soit en C#, soit en JavaScript. Donc là, on parle du langage de développement de l'application Windows 8.
Oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas dans le fond, c'est les deux langages de développement principaux sur Windows 8.
Oui. Mm. Sachant qu'il y a aussi C++ que en troisième, enfin en troisième ou en premier, j'en sais rien, mais en tout cas.
En premier.
Voilà, en premier. Donc, je télécharge cette application et j'obtiens un zip que j'ouvre, que j'extrais. Donc, extract all, que je vais extraire ici. Je ne sais pas si je le retrouverai après, mais bon.
Dans ton point Internet Spy, moi, je n'aurais pas fait ça.
Et puis, donc, j'ouvre mon, mon projet ici. Voilà. Et donc, dans ce projet, je vais retrouver effectivement, entre autres, le default.js dans lequel je vais avoir la clé d'application qui est ici. Alors, à quoi sert cette clé d'application? C'est juste, c'est un niveau de... pas de sécurité, mais en tout cas de qui donne un
d'unicité
qui rend les choses plus compliquées quand même pour pouvoir appeler les mobile services. C'est le niveau d'authentification vraiment le plus basique, c'est-à-dire que c'est une clé qu'on peut mettre dans l'application, donc dans tous les clients, et il faut au moins cette clé pour pouvoir aller changer les choses dans la base pour que n'importe qui puisse pas appeler les API REST. Après, il y a des systèmes beaucoup plus poussés pour vérifier. Donc ça, cette clé là, elle est ici, elle a été injectée dans le template qu'on a téléchargé. Et puis, on va retrouver autrement une application Windows 8 classique avec entre autres une MS Grid, etc., etc. Donc, si on démarre cette application.
Donc, on peut voir que c'est une application assez complexe.
Oui, c'est une application assez complexe avec un logo, etc. Donc, j'ai mon application LBA 010. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. C'est pas du tout dans le portail Azure ou autre au niveau web,
non,
c'est vraiment une application
machine,
locale sur ma machine Windows 8 qui est ici, là, ici.
Pour ceux qui ont fait un peu de développement Windows 8, on reconnaît bien les samples Windows 8.
Voilà, exactement. Donc là, faire quelque chose, donc je sais pas, par exemple, parler. Je rajoute une tâche parler, et puis une deuxième tâche se taire. Et puis, une fois que j'ai fini de parler, je peux cocher. Donc là, ça va faire un update en base qui fait que les données qui sont à droite de l'écran, ça apparaît plus dans la liste à droite puisque la liste ne montre que les choses qui restent à faire. Donc voilà. Et puis, se taire. Hop, voilà. Je l'ai fait, mais rapidement. Très bien. Donc, j'arrête mon application et on va aller voir.
Et tu retournes en base.
Et je retourne côté back-end pour voir ce que tout cela a donné. Donc, je suis dans mon portail, voilà, ici, pardon. Hop, zut. J'enlève mes moufles. Et je peux aller, donc j'ai le dashboard déjà qui va me donner effectivement des indicateurs sur l'activité, etc. Donc, il s'est passé des choses, mais récemment, sur le...
Il y a quand même eu un kilobit d'échangé. Hein.
Bah oui, quand même, hein, ça rigole pas. Ouais. ensuite, j'ai mon onglet data, donc dans lequel je retrouve la table to do item. Donc, évidemment, je peux rajouter des tables ici, etc. Et dans cette table, si je vais dans la table to do item, je peux voir effectivement que j'ai deux enregistrements, parler et se taire, avec le complique qui est à trous pour les deux, puisque j'ai fait la mise à jour. Je peux avoir aussi des... je peux gérer les colonnes. Donc là, voilà, on a les types JavaScript qui sont disponibles, donc des nombres qui vont être en BigInt, des chaînes de caractères qui vont être en string, et puis effectivement la partie booléenne. Et puis, alors la partie que j'indiquais, c'était les permissions, c'est-à-dire que quand on a l'application key, celle que je montrais tout à l'heure dans le code JavaScript, eh bien on peut mettre à jour la base. Mais on peut pousser les choses en disant, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre à jour la base que pour des utilisateurs authentifiés, par exemple, ou alors pour les scripts et les administrateurs, etc. Et en termes de script, donc là, c'est une partie assez intéressante aussi. C'est la partie, tout ce qui est scripting qu'on pourrait faire en JavaScript côté client, sauf que rien n'empêche un client d'aller modifier sa propre application. Et donc, il se donnerait des droits sur la base. Donc, on veut le faire côté back-end. Et donc, pour le faire côté back-end, eh bien, on va pouvoir aller rajouter du code ici de façon à vérifier que l'utilisateur a bien le droit de le faire avant de faire le request execute. Donc, on a des paramètres qui nous sont passés qui permettent de faire ce genre de choses. Donc si on prend une application un tout petit peu plus poussée, donc après on a d'autres onglets aussi push pour rajouter des push notifications. Donc là on va sur les portails de développement Windows 8, etc. L'identité c'est pour pouvoir effectivement gérer l'authentification et puis l'authentification avec Windows Live. Donc voilà. Et puis on a, donc ça c'est pour pouvoir changer de base de données si on veut. On a également la possibilité de dire est-ce qu'on veut un schéma dynamique ou pas. Là, par défaut, il est on, c'est-à-dire que si on reçoit un objet JSON, donc JavaScript Object Notation, et qui contient des éléments qui ne sont pas dans le schéma de la table à laquelle c'est destiné, il va rajouter les colonnes automatiquement, vraiment simple dans les cas simples. Quoi.
Mmh. Ça peut vite devenir un cas compliqué. Mais...
oui, voilà. C'est ça. Mais donc on peut éventuellement mettre à off si on a peur que ça devienne trop compliqué. ensuite, on a la partie scale, donc là où on peut dire, voilà, par défaut, je suis en shared, donc c'est un peu le même modèle que Websites, hein, sauf que là, on n'est que sur des instances de type small, ou alors en mode reserved. Et en mode reserved, du coup, on peut dire, je veux une, deux, trois instances de small sur lesquelles tournent mes mobile services.
Tu as dit comme ça, c'est un peu le même modèle que Websites. Mmh. L'avantage de Shared, donc on me rappelle que comme pour Websites, c'est que quand c'est personne n'adresse, voilà, c'est gratuit. Et quand, tant que vous n'avez pas donc, beaucoup de trafic sur l'application, vous ne payez pas le back-end.
Exactement. Et donc, ça permet de démarrer vraiment simple, même au niveau pécuniaire, dans les cas simples.
Voilà, donc par rapport au white paper de costing que j'ai évoqué tout à l'heure.
Ouais. Ça simplifie.
Ça simplifie.
Et puis également, on peut obtenir des logs ici. Donc, si on prend une autre application, donc là, j'avais fait une autre application qui, elle, était en. Qui, elle, était donc là où j'avais des logs. Hein. et qui était. Donc là, par exemple, si je veux voir à quoi correspond ce message-là, donc je peux avoir le détail qui dit voilà, il s'est passé telle chose. Et ensuite, me renvoyer vers l'endroit où le log a été généré. Et ici, par exemple, on a du code avec sur le insert, on dit qu'est-ce qu'on fait si une fois qu'on a réussi à exécuter la requête, on va envoyer une notification. Et sinon, on renvoie un 500 error. Et le send notification, il va dire voilà ce qu'on fait, etc. Donc on récupère les informations de l'item qui a été ajouté et tout et tout. Et puis, on va avoir également la partie identité aussi pour pouvoir avoir une intégration avec Windows Live, etc. Donc tout ça, c'est expliqué dans le training kit où on a effectivement des labs qui montrent comment les choses fonctionnent. Donc la partie la partie avec authentification. Donc là, en l'occurrence, c'est en C#. J'ai téléchargé la partie C# plutôt que la partie JavaScript. Donc voilà. Et si je la fais tourner localement, du coup, je vais avoir. Alors déjà, je peux insérer dans ma base de données que si je suis un authenticated user. Et donc, ce qui fait qu'il va me demander lorsque l'application va démarrer. Donc, quand elle démarre, il crée aussi un channel pour les push notifications. Et puis.
Sachant que authenticated user, ici, ça veut dire un utilisateur qui a un compte Microsoft.
Oui.
Voilà.
Exactement.
Ça ne veut pas dire un utilisateur qui a un compte avec l'appli. Hein.
Oui, en l'occurrence. En l'occurrence, oui. Donc là, effectivement, je vais m'authentifier et je vais pouvoir récupérer des données. Donc là, il me dit, vous avez été connecté avec ce compte-là. Bon, très bien. Mm-hmm. Et donc là, j'ai la liste des éléments qui sont qui sont déjà ici. Et puis, j'en rajoute une autre qui est finir. Hop. C'est pas mal comme tâche, ça, finir. Et du coup, j'ai une push notification qui arrive, puisque effectivement, j'ai rajouté finir. Et puis, il y a les autres textes qui sont Hello World 1 et Hello World 2. Même chose que tout à l'heure, on peut finir de finir. Ce qui conclut ma démonstration.
Le fait que tu aies fini de finir conclut la démonstration. Bah, écoute.
Très bien, donc...
voilà du méta.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce bulletin Azure. Merci d'être venu.
Merci Benjamin.
À bientôt pour d'autres épisodes.
À bientôt.
À bientôt.